La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La voix de l'emploi. Avec le soutien de Grenoble Alpes Métropole.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur News FM, sur le 101.2, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission de La Voix de l'Emploi, votre émission sur l'emploi sous toutes ses formes. Alors d'après le portail internet des chambres des métiers de l'artisanat, on comptait en avril 2018 1 300 000 entreprises artisanales en France, ce qui fait de l'artisanat un moteur majeur de l'économie nationale, un géant de l'économie composé d'une multitude de petites ou très petites entreprises. De son côté, le secteur agricole en France est lui aussi puissant. La France est le premier pays européen en termes de production agricole. Et en 2019, on dénombre plus de 448 000 agriculteurs. Alors, comment se portent ces deux secteurs d'activité et quelles opportunités d'emploi offrent-ils aujourd'hui ? L'artisanat et les métiers de la terre, c'est le sujet de la Voix de l'Emploi de ce mardi 22 octobre 2019. Et ce sont trois invités qui vont nous aider à apporter quelques réponses. J'ai donc le plaisir d'accueillir Daniel Cuchet. Bonjour.
Bonjour.
Alors Daniel, vous représentez la Chambre d'agriculture de l'Isère autour de notre table. Vous êtes conseillère développeur en apprentissage sur le secteur Alpes-Isère-Savoie-Mont-Blanc. Voilà. C'est très large, dites-moi, vous voyagez beaucoup.
Oui, effectivement, donc en fait, c'est une mission nouvelle donc, qui a débuté en 2017 pour favoriser l'embauche en apprentissage. Et donc, c'est une mission régionale, c'est un poste qui est à la fois sur l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, mais également sur l'Ain et le Rhône.
Je poursuis les présentations. Donc, à vos côtés, il y a Anne-Laure Jouvenal. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue également. Donc, Anne-Laure, vous êtes co-gérante de la maison Jouvenal, artisan chocolatier à la Côte-Saint-André, c'est ça ?
C'est ça. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance. Je suis née dans une chocolaterie.
Oui, c'est sûr que ça doit faire rêver beaucoup de monde.
On ne pouvait pas choisir mieux.
Cela dit, peut-être au bout d'un moment, on finit par ne plus être aussi gourmand de chocolat.
Alors moi, j'aimerais bien ne plus
dedans.
Être gourmande. J'aimerais beaucoup. Non, on est tous très, très gourmands. Et toute l'équipe chez nous, on se porte tous volontaires pour goûter les nouveautés. Pense que quand on est dégoûté, c'est que le produit n'est pas génial. Nous, on est vraiment gourmands.
Voilà, donc vous êtes co-gérante et puis vous occupez aussi un petit peu de tout ce qui est communication, hein, parce qu'il y a pas mal d'outils que vous utilisez.
Oui, alors on a la chance d'être nombreux, donc chacun fait un petit peu sa partie à lui. Et moi, je m'occupe de Facebook, qui aujourd'hui est très important en fait pour nous. Ça nous permet de nous relier vraiment à nos clients qui participent, qui donnent des idées. Donc c'est super agréable d'avoir cette interaction. Le site internet, on a un petit journal de la maison, on a un calendrier. Et puis surtout, on a un musée du chocolat où on accueille les groupes, les particuliers pour leur expliquer tout sur le chocolat.
Alors on va y revenir dans la deuxième partie de notre émission, puisque aujourd'hui vous êtes là pour témoigner en tant qu'artisan dans ce secteur donc de la fabrication artisanale de chocolat. Vous aurez l'occasion de nous parler un petit peu plus donc de votre maison et puis de la façon dont vous vivez cette activité au quotidien. Notre troisième invité, c'est Thierry Chaudagne. Bonjour.
Bonjour.
Donc Thierry, vous êtes responsable service emploi et centre d'aide à la décision à la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Isère.
C'est ça.
Alors quelques mots, peut-être un peu plus sur justement, c'est quoi un centre d'aide à la décision ?
Alors si vous voulez, ce centre d'aide à la décision, c'est un service qui fait la promotion des métiers de l'artisanat auprès des établissements scolaires, missions locales et autres partenaires où on peut trouver de la force vive prête à embrasser des carrières dans l'artisanat et faire là aussi la promotion de l'apprentissage, comme le disait Daniel Cuchet, auprès de nos artisans. Donc, si vous voulez, nous sommes des conseillers d'orientation et agents de promotion de l'apprentissage. D'un côté, donc, du centre de la décision et l'emploi, service emploi, c'est un service ressources humaines adressé aux 34 000 entreprises artisanales de l'Isère.
Voilà, effectivement, vous faites le lien avec la première question que j'allais poser, puisque en ouverture, je donnais quelques chiffres pour tout le pays. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est notre département de l'Isère. Donc, effectivement, vous venez de citer le nombre d'entreprises artisanales qui sont recensées. Ce sont des chiffres de cette année ?
Ce sont des chiffres tout à fait récents, absolument. En augmentation, constante.
Voilà, c'est ça, puisque, alors je ne sais pas si moi, mes chiffres sont aussi récents que les vôtres, mais en tout cas, on notait, sur les derniers chiffres que j'avais, environ 3200 créations d'entreprises artisanales pour 1900 radiations, autrement dit des disparitions hein, d'entreprises, qui veut dire qu'il y a forcément un excédent. Ça veut dire qu'il y a chaque année de plus en plus d'entreprises artisanales. Alors, quel est l'état de santé de ce domaine de l'artisanat ? Est-ce que c'est effectivement un domaine qui a de l'avenir ?
Ah, absolument. L'artisanat a un avenir radieux, je pense. Enfin, j'espère, mais je le pense. Eu égard au nombre de visites que nous avons quotidiennement dans nos locaux, que ce soit sur Grenoble, sur Vienne, aussi dans notre centre de formation, le FMA à Bourgoin-Jallieu, et aussi au nombre de mails qu'on peut recevoir de la part de nos artisans et de ces jeunes qui veulent trouver un maître d'apprentissage dans l'artisanat.
Alors justement, les personnes qui viennent chez vous, qui franchissent la porte des chambres des métiers de l'artisanat, c'est quoi le profil ? C'est plutôt des jeunes ? C'est des gens de tous âges ?
Alors concernant mon service, donc pour l'aide à la décision, c'est plutôt des jeunes, mais de plus en plus, on voit des adultes en reconversion qui veulent changer carrément de vie, changer de carrière. Et c'est vrai qu'on a une recrudescence de gens plus âgés. Ce n'était pas notre public habituel, mais ça le devient. Notre public habituel, c'était des jeunes collégiens arrivant en fin de troisième. Ça, c'était le portrait robot. Ça l'est de moins en moins.
Est-ce que vous avez plus à faire à traiter des demandes de formation, d'apprentissage ou des personnes qui viennent avec un dossier, un projet directement d'entreprise ? Parce que vous pouvez aussi réagir, Anne-Laure, Daniel, même si on est sur l'artisanat, mais il peut y avoir aussi des points communs avec le domaine de l'agriculture. Ce que je voulais dire, c'est que on a tendance à penser que lorsqu'on se lance dans une activité d'artisan, il faut avoir un savoir-faire, il faut avoir acquis des compétences. On ne s'improvise pas artisan, non. Donc c'est plutôt de la formation ou il y a aussi de la création d'entreprise ?
Alors effectivement, moi je vous parle de mon service qui est l'orientation, service d'orientation des jeunes, promotion de l'apprentissage, mais mes collègues du service création d'entreprise voient quotidiennement des nuées de porteurs de projets, tel est leur nom, qui viennent pour être conseillés sur la création d'entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a un solde positif, du nombre d'entreprises. Je n'ai pas leurs chiffres, mais c'est plusieurs milliers de créateurs d'entreprises qui viennent chaque année dans nos murs, se former, s'informer, se former sur la création d'entreprises et être accompagnés individuellement ou par le biais de formation.
Je crois qu'on fait le même constat au niveau de l'agriculture, puisqu'on a effectivement un public qui vient nous rencontrer pour des... parce qu'il a un projet, éventuellement une idée d'installation en agriculture. Et donc, ce sont souvent des personnes en reconversion professionnelle et pas forcément un public jeune, du coup, qui peut avoir plus de 40 ans, d'ailleurs, et qui souhaite transformer sa vie professionnelle. Mais il y a aussi, effectivement, quand même, des tout jeunes. C'est là un petit peu le constat, des jeunes trentenaires qui ont suivi un cursus de formation complètement différent, de grandes études parfois, et qui ont ce besoin de revenir à des choses plus concrètes, créer quelque chose à eux, toucher du doigt la matière, donner du sens en fait à ce qu'ils vont faire, redonner un sens à leur vie, différent. Donc nous, on a 170 installations, nouvelles installations chaque année, donc nouveaux installés, et il y a un grand nombre... les installer, puis un grand nombre de demandes de gens qui se renseignent, qui vont être sur des voies de formation, qui vont passer par la formation préalablement. Donc il y a un gros potentiel également de gens à installer dans l'agriculture. Mmh. Donc on fait le même constat que sur l'artisanat de ce point de vue-là. Après, nous, le public, on n'a pas de centre d'aide à la décision au niveau des chambres d'agriculture, mais néanmoins, on rencontre nos publics sur des forums, orientation métier. Donc là, on a vraiment le public des collégiens, 4e, 3e, des lycéens, et puis d'étudiants, donc on renseigne sur les métiers de l'agriculture. Alors là, on part de la base, on explique de façon très simple les choses, on montre la réalité des métiers, on explique aussi quelles sont les formations qui permettent de pratiquer ce métier, les cursus, les voies aussi d'accès à cette formation. Ça peut être la voie initiale, là ça peut être l'alternance, on est stagiaire de la formation professionnelle, on est également donc on est stagiaire chez un maître de stage, ou bien la voie de l'apprentissage, qui est, donc là, on est embauché par un employeur et on suit des cours de formation en centre de formation et on acquiert un diplôme au bout de cursus. Donc voilà, on renseigne sur toutes ces... on renseigne directement au cœur des territoires. Voilà. Souvent auprès de nos partenaires consulaires et centres de formation.
D'accord. On va y revenir de toute façon un petit peu plus hein, sur ce secteur de l'agriculture, voilà, les métiers de la terre, comme j'avais qualifié ça en titre. Mm-hmm. Pour continuer sur l'artisanat, je crois qu'Anne-Laure, vous vouliez réagir.
Oui, je trouve ça très intéressant parce que finalement, nous aussi, on a ce rôle de bureau des renseignements, alors que ce n'est pas du tout notre métier. Mais moi, j'ai 4 ou 5 fois par an, alors c'est beaucoup moins que vous deux, hein, des gens qui téléphonent, qui ont mon âge, donc entre 30 et 40 ans, et puis qui disent, bah voilà, moi je fais un métier. Alors ils ont souvent une catégorie socio-professionnelle très élevée, ils sont architectes, ils sont avocats, ils sont notaires, je ne sais quoi. En fait, je veux être pâtissier, et je voulais savoir si vous pouviez me renseigner. Et alors, parfois, ils ont un peu avancé, mais souvent, c'est le premier coup de fil. Ils décrochent leur téléphone en disant, en fait, c'est mon envie, je ne sais pas encore par quoi commencer. Et ça revient à ce que vous disiez, madame, c'est-à-dire donner du sens, trouver un métier qui veut dire quelque chose pour moi. Alors, on commence par leur expliquer un peu ce qu'est le métier, les contraintes du métier, parce que souvent, dans notre cas précis, hein, je ne sais pas comment ça se passe pour les plombiers et les autres, mais les gens pensent aux émissions, le meilleur pâtissier, top chef, etc. Donc, on leur explique qu'il n'y a pas des paillettes tous les jours et que c'est un très beau métier, bien sûr, mais qu'il faut quand même prendre en compte qu'à Noël, on bosse beaucoup, qu'on ne va pas au ski parce que ce n'est pas la bonne période, enfin voilà. Mais en fait, pour la plupart, bah, ils sont convaincus et nous, on accueille aussi des apprentis adultes, donc en reconversion. Qui est très surprenant pour nous parce que c'est quelque chose que, par exemple, mon papa n'a pas connu. Ses apprentis, ils avaient tous 14 ans. Nous, on a des apprentis qu'on vous voit parce qu'ils sont plus âgés que nous. Puis bon, petit à petit, on se connaît, mais c'est assez intéressant. Je pense qu'on touche un peu une définition de l'artisanat aujourd'hui, bah, ce côté...
Alors justement, oui, Thierry, Daniel, cette tendance dont parle Anne-Laure, que l'apprentissage, c'est plus forcément des jeunes, c'est aussi des adultes. C'est, depuis combien de temps ça a commencé à évoluer dans ce sens-là?
Alors, il y a une différence déjà, que l'évolution des mentalités, ça date déjà de, je dirais, peut-être une décennie. Mais il y a aussi la loi qui a évolué, car aujourd'hui, on peut signer un contrat d'apprentissage jusqu'à 29 ans révolu. C'est-à-dire, jusqu'à 30 ans moins un jour, on peut débuter un contrat d'apprentissage. Et jusqu'à l'année dernière, c'était 26 ans moins un jour. Donc il y a une évolution à la fois des mentalités et aussi une évolution réglementaire.
Donc la loi s'adapte aux tendances qu'elle constate, que les législateurs constatent au niveau des goûts des gens.
Voilà. Et quand c'est pas par ce biais-là, par Pôle emploi, ça marche aussi. Nous, on a eu des personnes qui avaient plus de 30 ans, qui, avec Pôle emploi et qui motivent vraiment leur reconversion, peuvent changer de métier.
Ou par le biais de contrats de professionnalisation, effectivement. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de se former qui fait qu'on voit effectivement plein d'apprentis, comme vous dites, entre guillemets, qui ont 45 ans. Alors, ils n'ont peut-être pas le statut d'apprenti, mais en tout cas, ils sont apprenants. Et on en voit de plus en plus. Parce que, comme le disait Madame Cuchet, c'est l'envie de donner un sens à leur carrière, de retrouver du sens. Et je crois qu'on est sur des métiers, que ce soit l'agriculture, l'artisanat, pour lesquels tous nos métiers ont du sens.
Ça accompagne finalement un peu l'évolution aussi de la société, qui est d'aller vers davantage de protection de l'environnement, retour vers des produits sains, des manières de consommer différemment. Oui, oui. C'est un peu cette ère du temps là, qui marque ce début du 21e siècle. Thierry, une question qui va vous paraître peut-être un peu bête, mais quels sont les critères qui déterminent qu'une activité professionnelle va relever de l'artisanat et non pas d'un autre domaine? Alors, bon, forcément, il n'y a pas beaucoup de salariés, c'est un
salarié. Alors, effectivement, à la création d'entreprise, une entreprise artisanale, elle a moins de 10 salariés ou moins de 15, si le chef d'entreprise est maître artisan. Moins de 10 ou moins de 15, première chose. Deuxième chose, c'est en fonction de l'activité. l'activité, le cœur du métier, la raison d'être de l'entreprise doit avoir une activité artisanale, de savoir-faire, de transformation d'un produit ou d'un service à caractère plutôt, qu'on dirait, manuel. Deux exceptions à cela, les chauffeurs de taxi, les ambulanciers, sont des artisans. Alors vous allez me dire, ils conduisent avec leurs mains, peut-être, mais ce serait peut-être les exceptions pour lesquelles il n'y a pas de... Le cœur du métier n'est pas une activité technique et manuelle.
Voilà. Donc après, ce ne sont pas des artisans. Hein.
Ce sont des artisans. Ce sont des exceptions. Ils sont chez nous.
Je ne suis pas le mieux placé pour vous définir exactement.
C'est une définition un petit peu grossière que je vous donne, mais voilà, une activité. C'est-à-dire qu'une petite industrie de moins de 10 salariés, c'est une entreprise artisanale. C'est-à-dire que nous avons des besoins de chaudronniers, de soudeurs, les mêmes besoins que pourraient avoir de très grosses industries. Nous avons les mêmes besoins dans l'artisanat pour ces entreprises qui sont très souvent des sous-traitants de grandes industries. Mais comme elles ont moins de 10 salariés, ce sont des entreprises artisanales.
Et aujourd'hui, il y a énormément de types d'activités artisanales. Hein. C'est plus de 500, je crois, qui sont recensées.
On a 510 activités qui sont réparties. Je ne vais pas vous les définir.
On ne va pas toutes les faire, non ?
Parce que nous n'avons pas le temps, et puis je ne connais pas toutes par cœur non plus. Mais on a 4 secteurs d'activité, pour vous définir en gros. Le bâtiment, c'est 40% de nos entreprises du bâtiment. Les métiers de l'alimentaire, pâtisserie, chocolaterie, boulangerie, etc. C'est 11%, je crois. Et les activités de production, donc là nous avons les industriels que j'évoquais, enfin les petits industriels que j'évoquais, et tous les artisans d'art, tous les artisans qui fabriquent les ébénistes, les potiers, etc., etc. Et puis le dernier secteur, le secteur des services, où là nous avons l'ambulancier, le coiffeur, le mécanicien, le carrossier, etc., etc. On et a là c'est 33%.
On a un petit peu l'image d'Épinal, de l'artisan qui est dans son petit atelier, plutôt en milieu rural ou en montagne. Si c'est en zone urbaine, c'est le petit local, un petit peu caché. Ça, c'est vraiment une image d'Épinal, ça ne correspond plus à la réalité
ça
aujourd'hui.
Ça ne correspond plus du tout à la réalité. On a des start-up qui travaillent sur de la haute technologie. Nous avons parfois des offres d'emploi, on recherche des ingénieurs, voire même des docteurs. Donc voilà, on a encore besoin de salariés en maçonnerie, en boulangerie, pour les métiers qu'on dirait plus traditionnels de l'artisanat. Mais on a aussi ces nouveaux secteurs d'activité qui sont en pleine expansion aussi.
Alors, revenons sur le domaine de l'agriculture avec Daniel. Hein, ça ne veut pas dire que, bien sûr, vous ne pouvez pas réagir également tous les deux. Finalement, c'est un petit peu la même question que je posais à l'instant là, sur les différents domaines que ça concerne. Oui. Parce que l'agriculture, c'est le terme un peu général, mais ce n'est pas que des éleveurs ou des cultivateurs. Il y a beaucoup de métiers qui relèvent de
l'agriculture. Oui, et une grande diversité de métiers dans l'agriculture. C'est un peu ce qu'on essaye aussi de présenter aux jeunes, parce qu'il y a aussi beaucoup, par rapport à l'agriculture, beaucoup d'idées, beaucoup de stéréotypes. L'agriculteur avec sa fourche dans le champ, c'est un petit peu terminé. Donc en fait, il y a énormément de filières qui sont représentées, notamment dans le département. Hein, donc la filière animale avec tout l'élevage qu'on connaît, toute la partie végétale, hein, tout ce qui est grande culture de céréales, toute la partie maraîchage, horticulture avec l'arboriculture, le maraîchage, l'arboriculture, la pépinière, toute la partie végétale, la forêt qui est très importante dans notre département. On a aussi toute la partie, on a une partie d'agroalimentaire hein, avec la transformation des produits fermiers notamment, donc avec des formations. Donc dans toutes ces filières, derrière toutes ces filières, il y a des formations en centre de formation agricole. Hein. Voilà. On a aussi toute une partie de vente, toutes des formations sur la vente également de produits alimentaires notamment. Et puis des métiers de service en milieu rural également. Et on a aussi les métiers un peu transversaux, qu'on connaît moins, les métiers du conseil. Et dans toutes ces filières-là, il y a des formations du CAP au niveau ingénieur. On a aussi un petit focus, si je peux me le permettre de faire un petit focus sur un métier, mais très très mal connu, une filière très mal connue, qui est celle de l'agroéquipement. Donc c'est tout ce qui est lié à la machine agricole. Ça part de la conduite, de la réparation, de l'entretien des machines, par la distribution, la vente. Donc il y a énormément de métiers derrière tout ça, les distributeurs, les vendeurs, les conducteurs d'engins. Et dans ce domaine-là, il faut vraiment, on a vraiment besoin d'en parler parce qu'il y a plus de 3000 offres d'emploi chaque année qui sont non pourvues. À tout niveau, il y a une possibilité de promotion, enfin vraiment il y a une grande possibilité de développement, il y a vraiment une possibilité d'avancer, c'est-à-dire que, voilà, avec un niveau, on peut commencer au niveau CAP, il y a du bac pro, du BTS, et puis voire plus, bac plus 3 jusqu'à niveau ingénieur, il y a vraiment des possibilités de promotion dans ce domaine de l'agroéquipement. Voilà, donc ça, nous, on essaye de faire un focus parce qu'il y a aussi un manque d'élèves dans les classes, et il y a chaque année des entreprises qui sont en recherche de jeunes. Et si, notamment des technico-commerciaux aussi.
Ouais. Voilà. Et si il y a justement ce manque de candidatures, il n'y a pas suffisamment de jeunes qui s'orientent vers ces métiers-là.
Parce que c'est très mal connu.
Voilà, c'est essentiellement mal connu. À cause de ça. C'est pas que ça n'inspire pas.
Non, parce jeunes. Qu'en fait, ce domaine-là, il peut intéresser vraiment des jeunes qui sont passionnés un peu de mécanique, par exemple. Parce qu'il faut savoir que dans les machines agricoles, c'est plus le vieux tracteur qu'on voyait, on a l'habitude dans notre image d'Épinal de voir dans le champ. On a vraiment des machines avec énormément d'électronique, d'informatique embarquée. Quand un mécanicien vient faire une réparation sur un tracteur de ce type-là, il va brancher son ordinateur comme on peut brancher sur une automobile, voilà, sur une, maintenant de nos jours, avec une vraiment, on peut dire que c'est la Formule 1 de la machine, de l'automobile finalement, la machine agricole maintenant. Donc il y a beaucoup de nouveaux métiers et il y a de la possibilité d'embauche et de développement.
Alors, pour terminer cette première partie d'émission, et avant de faire la pause et d'entendre un peu plus Anne-Laure, qui va aussi nous faire goûter ces produits, ces chocolats. Donc, on attend avec impatience ce moment-là. Pour terminer, juste rappelez-nous, Thierry, Daniel, de quelle manière les chambres des métiers et de l'artisanat, chambres d'agriculture, jouent leur rôle. Quels sont les types d'accompagnement, les dispositifs, les aides que vous proposez? Daniel, on continue avec vous.
Alors, le rôle déjà de promouvoir les métiers de l'agriculture au sein donc de ces forums, toutes les participations à différentes manifestations. Il y a un point accueil installation au sein de la chambre d'agriculture pour les porteurs de projets. Donc là, toutes les personnes qui ont une idée ou un projet un peu qui commence à avoir un peu de forme peuvent appeler le point accueil installation. Qui pourra leur donner un rendez-vous, soit un rendez-vous sur une réunion donc avec d'autres personnes, soit un rendez-vous individuel, en fonction de l'état d'avancement du projet. Et ces personnes-là peuvent rentrer dans un parcours à l'installation. Donc après, au niveau des aides, donc on a une agriculture, effectivement, une installation qui est aidée, financée par lorsque la personne donc a moins de 40 ans et a un diplôme agricole donc de niveau bac, voilà, c'est le niveau minimum. Donc là, il y a des aides spécifiques et puis il faut qu'elle ait validé ce qu'on appelle un plan professionnel individualisé, un plan de professionnalisation individualisé, excusez-moi. Donc voilà, donc là, il y a vraiment un accompagnement qui se fait du début jusqu'à l'installation, voire au suivi ensuite de l'installation par les conseillers donc du point accueil installation, les conseillers d'entreprise. Voilà. Donc il y a tout un accompagnement vraiment important qui est apporté à ces porteurs de projets. Et puis, il y a aussi un accompagnement des personnes qui veulent transmettre leur exploitation. Donc, du coup, il y a une relation entre installation et transmission, forcément, puisque les personnes qui vont vouloir s'installer sont aussi peut-être à la recherche d'une exploitation pour pouvoir s'installer. Donc, il y a vraiment une relation entre ces deux pôles.
Avant, c'est vrai qu'il y avait souvent une transmission qui faisait de père en fils. Oui. Ça restait dans la même famille, les exploitations. Ça, c'est
plus rare. Ça existe encore, mais c'est beaucoup plus rare maintenant. Et il y a beaucoup de personnes hors cadre, ce qu'on appelle hors cadre familial, qui veulent s'installer à présent.
Thierry, du côté de la Chambre des métiers de l'artisanat.
Nous déclinons la même offre de services de manière globale sur l'accompagnement donc des chefs d'entreprise, soit des porteurs de projets, mais aussi des chefs d'entreprise artisanales qui sont déjà installés. Je ferai un focus, moi, sur notre service en lien avec l'emploi, car je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait la promotion donc, des métiers de l'artisanat, de l'apprentissage auprès des jeunes. auprès des entreprises, nous recueillons leurs offres d'apprentissage que nous mettons en ligne sur la bourse de l'apprentissage, une bourse de l'apprentissage régionale qu'on trouve très facilement sur Internet. Et nous mettons donc en relation les jeunes et les entreprises, mais ces jeunes, nous les accueillons pendant la campagne d'apprentissage de février jusqu'à fin septembre. Tous les mercredis après-midi, on accueille 20-25 jeunes pour les informer collectivement sur ce qu'est l'apprentissage, comment faire un CV, comment se présenter en entreprise. On les prépare sur leur technique de recherche d'emploi. Ensuite, ils sont reçus en entretien individuel où ils doivent, quelque part, vendre leur projet, être convaincants, pour qu'après, ils puissent avoir la chance qu'on mette leur profil sur la bourse de l'apprentissage et avoir accès à nos offres. Et si le projet n'est pas directement valide, nous avons des psychologues du travail dans nos équipes, quand le jeune a un problème de niveau scolaire ou on a un doute sur sa capacité à pouvoir intégrer un CAP ou un bac professionnel, on lui fait passer des tests de niveau, maths, français, des tests de raisonnement, des tests de concentration, des tests de mémoire, une batterie de tests. Il est reçu après en entretien individuel d'une heure suite à la passation des tests pour qu'on détermine un peu plus la validité de son projet. On travaille un petit peu aussi sur son projet d'orientation. Daniel l'évoquait, le jeune, il veut faire mécanicien auto, et pourquoi pas mécanicien agricole, et pourquoi pas mécanicien d'engin de travaux publics. On essaie de l'ouvrir, donc on fait à la fois du conseil d'orientation, et puis aussi on vérifie qu'il a bien les prérequis, si vraiment il a un niveau très, très faible en mathématiques et qu'il veut faire, par exemple, charpentier. On va essayer de voir si ce niveau en maths, c'est parce qu'il en a marre du collège ou est-ce que vraiment il a de grosses difficultés en géométrie dans l'espace. On va essayer de vérifier tout cela pour le conseiller au mieux dans son projet. Et à terme, présenter auprès de nos artisans des jeunes dont le projet nous paraisse solide.
Et pour les artisans déjà bien en place,
oui,
ou les agriculteurs déjà en activité, quel genre de demande vous pouvez avoir et qu'est-ce que vous pouvez apporter?
Alors, je garde la main.
Oui, bien sûr.
nous accompagnons aussi les artisans pour l'embauche de salariés qualifiés. Nous les accompagnons sur... On est des consultants en ressources humaines, c'est-à-dire que nous allons les voir pour leur administrer des diagnostics en matière de ressources humaines, un diagnostic très complet. On a un financement de la directe pour aller les voir une bonne demi-journée pour les interroger sur la dimension très large de ressources humaines, le respect du droit du travail, la santé et la sécurité de leurs salariés, leur technique de recrutement, leur technique de motivation de leurs équipes, pour après, une fois qu'on leur a posé ces questions, revenir 15 jours, 3 semaines plus tard avec une synthèse, avec leurs poids forts, leurs axes de progrès, et puis des préconisations d'amélioration. C'est-à-dire qu'on fait aussi du consulting RH.
Est-ce que c'est payant?
Ah, très bonne question. Mmh. Eh bien, le financement de la direction du travail permet que ce diagnostic en ressources humaines soit totalement pris en charge. Donc, on demande juste du temps à l'artisan. Ça, c'est un outil. On a un deuxième outil pour lequel on propose en plus 2 jours de formation. Mais là, ça coûte 80 € hors taxe, l'accompagnement de plusieurs jours, plus les 2 jours de formation. Et puis, je l'avais fait d'ailleurs avec la pâtisserie Jouvenal.
Là, par contre, c'est comme ça qu'on s'est connus, monsieur
Chaudel. C'est comme ça qu'on s'est connus. J'avais audité leurs salariés. Donc ça, c'est une prestation payante, comme un cabinet de consultant.
Alors, on avait commencé par la prestation gratuite.
On avait commencé par la prestation gratuite.
Et moi, quand on m'a téléphoné pour me présenter ce que monsieur Chaudel vient de présenter, j'ai cru que c'était une blague, parce que j'ai dit, mais attendez, c'est gratuit, oui. Et c'est aussi bien que ce que vous êtes en train de me dire. La jeune fille au téléphone m'a dit, bah oui, mais tout le monde me dit non, parce que les gens ont peur qu'on vienne farfouiller dans leur méthode de management, qu'on vienne vérifier si tout est parfait. J'ai dit, mais pour nous, c'est super intéressant d'avoir un œil extérieur.
Ouais.
Et du coup, on avait acheté la formule complète.
Et vous aviez acheté la formule complète, on l'avait bien, j'avais bien vendu mon affaire. Ouais.
Bravo.
Et du point de vue donc de la chambre d'agriculture, quel genre de service pour les exploitants déjà en activité?
Alors, le service que moi j'apporte aux agriculteurs dans le cadre du développement de l'apprentissage, je vais les rencontrer sur place et on fait un point un peu sur leurs besoins, parce que parfois l'appel est souvent dans le cadre d'une recherche d'un salarié ou pas forcément d'un apprenti, donc la demande n'est pas vraiment formulée et c'est souvent dans le cadre d'une transmission ou parce qu'un associé part sur l'exploitation, donc il y a un besoin, vraiment. Et donc, je vais faire le point du besoin. Et ensuite, en fonction de ce que l'on a vu ensemble, Je fais le lien avec les conseillers experts de la Chambre d'agriculture qui sont, eux, sur différentes thématiques. Ça peut être des thématiques différentes de l'emploi, finalement. Ça peut être sur de la transmission. On fait le point avec les conseillers transmission, etc. Et on évalue le besoin. Voilà. Après, il peut y avoir des besoins différents. Et voilà, j'essaye de faire le lien par rapport à ça. Il y a aussi chez nous des personnes qui ont vraiment cette qualification sur la gestion des ressources humaines, la gestion du travail dans le groupe, puisqu'on a des formes sociétales donc de travail en commun, donc qui interviennent, et par la voie de la formation aussi, qui aide justement les agriculteurs à avancer sur leurs exploitations, à résoudre certaines difficultés. Donc on a tout un panel en fait de conseillers experts qui sont à même d'intervenir. Alors là, il y a effectivement, c'est soit de la prestation gratuite ou payante, mais il y a toute une possibilité et de prestation et de formation aussi tout au long de la vie de l'exploitant.
Je voudrais ajouter aussi le fait qu'on a nos services apprentissage qui s'occupent de toute la formalisation des contrats d'apprentissage. Le droit de l'apprentissage, c'est très complexe. On peut vite faire des erreurs, en matière de rémunération notamment, mais pas que cela. Et donc on a nos services apprentissage qui, pour une modique somme vraiment, établissent les contrats d'apprentissage de A à Z jusqu'à l'inscription du jeune dans le centre de formation d'apprentis. Évidemment.
Donc là, on a exactement la même mission et la même prestation, on va dire, d'accompagnement à la réalisation des contrats. Surtout de la sécurisation des contrats. Hein. Et on va jusqu'à l'enregistrement du contrat d'apprentissage. Donc, on accompagne via cette prestation sur du conseil, sur préalable à la réalisation du contrat d'ailleurs. Et c'est tout à fait en lien, pour moi, avec mon métier de développeur du coup. On va jusqu'au bout de la démarche et on accompagne l'employeur jusqu'au bout et on le suit tout au long du contrat, c'est-à-dire jusqu'au terme du contrat.
Possibilité de faire la médiation aussi, c'est-à-dire... S'il y a une mésentente à un moment entre le maître d'apprentissage et l'apprenti, possibilité de recevoir tout le monde pour essayer de dénouer le nœud.
Ça, c'est intéressant de le savoir. Hein,
oui, non, parce
que c'est vrai que c'est le genre de petit tracas dans le monde professionnel, entre employeurs et salariés. C'est bien de savoir que les chambres peuvent aussi intervenir. C'est pareil pour la chambre.
Oui, la mission, c'est la même. C'est la mission de service public, ça.
Allez, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de La Voix de l'Emploi consacrée aujourd'hui, vous l'avez compris si vous nous suivez depuis le début, on parle d'artisanat et des métiers agricoles. A tout de suite.
J'ai la technique, le flow, les armes, le seum, l'envie de niquer ta mère, je suis dangereux. Je fais partie des seuls qui ont marqué l'histoire et je suis malheureux. Pas la même vie, pas la même SACEM, pas la même équipe, tous des peureux. Pas le même don, pas le même délire, moi c'est Dom Pérignon, toi c'est Vin Mousseux. J'ai plus aucune envie de vous plaire, je veux plus me justifier. Je sais que t'as fait tomber l'échelle pour pas que je puisse monter. T'es un chien, moi je suis au Seychelles, mon bif est dispatché. Mes enfants vivront de ma SACEM, même quand je serai dégoûté. Je t'ai financé sur du souk, la Zumba ou du slow. J'ai tout ce que tu n'es pas, appelle-moi Lancelot. T'as reconnu ma voix, tu es invité avec Danzo.
Personne, 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 personne. Personne, 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 personne. Les grosses biches ne me regardaient pas. Les sons disques ne me parlaient pas. Personne, 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 personne.
Passer le temps, j'achète des appartements. Je suis indépendant, donc y'a plus d'intervenants. Moi, j'ai fait des enfants, dans ça je garde autant pour moi. Son cœur en plein tourment, son corps vide de versement. Insulté sur réseaux sociaux. Je prends mes distances, j'étudie le droit devant. Essoufflé, cours après le métro. Mais gagner du temps, au fond n'est qu'une perte de temps. C'est un idée tatoué pour ne plus la perdre. J'en ai. Bernard, ils ont tout le vert, c'est gars. Ben ouais. J'ai tout niqué dans ce game, plus grand chose à faire. Comment mets des couplets dans mon compte et pas.
De l'emploi, c'est sur News FM. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur News FM et vous écoutez La Voix de l'Emploi. Nous parlons des artisans et des exploitants agricoles. Alors, on a commencé à déguster les bons chocolats Jouvenal que Anne-Laure Jouvenal nous a apportés. Merci Anne-Laure.
Merci.
Donc les auditeurs, vous n'en aurez pas. Il faut aller à la chocolaterie Jouvenal pour pouvoir... pouvoir goûter tout cela.
C'est pas loin de Grenoble, je précise, parce que nous, à la côte, on dit qu'on va à Grenoble, on dit qu'on va pas loin. Les Grenoblois, quand ils viennent à la côte, ils disent que c'est très loin.
Bah alors, ça veut dire qu'on peut pas en trouver sur Grenoble même.
On est au marché de Noël de Grenoble chaque année. Donc, pendant un mois par an, on est juste à côté de vous. Mais le reste de l'année, on n'est pas loin, on est à trois quarts d'heure.
C'est vrai, donc il y a pas de... oh, bon, je pense que ça, vous devez avoir beaucoup de, oui, de visites quand même avec le musée aussi.
On a beaucoup de Grenoblois.
Alors voilà, rappelez-nous un petit peu. Donc la maison Jouvenal, ça existe depuis quand? Qui est-ce qui a monté ça? C'est votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père?
C'est mon arrière-grand-père qui a créé la maison en 1912. Et puis chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice. À l'époque de mon arrière-grand-père, ils étaient surtout pâtissiers parce que le chocolat c'était un produit très cher. C'était un produit de Noël. C'est très difficile d'expliquer ça. Aujourd'hui, j'étais dans un centre de loisirs ce matin avec des enfants. Quand on leur dit ça, ils disent bah, « c'était vraiment triste alors la vie à l'époque ». On leur dit « non, c'est juste que c'était comme pour nous aujourd'hui le marron glacé ». Le marron glacé, on en mange à Noël et puis on n'en mange pas beaucoup parce que c'est cher. Et puis mon grand-père reprend la maison dans les années 50 et lui décide de mettre vraiment en avant le chocolat parce que ça lui plaît. Et puis parce que ça se démocratise aussi, il faut le dire. Quand mes parents reprennent l'entreprise dans les années 80, ils se rendent compte que le chocolat, c'est un produit qui est très apprécié autour de la table. J'ai vu que ça, c'était vrai.
Ah bah et oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent ne pas aimer le chocolat quand même.
Souvent, quelqu'un qui nous dit « j'aime pas le chocolat », on lui demande s'il aime le chocolat blanc, il l'aime. Donc il aime le chocolat, parce que je me permets de faire ma petite parenthèse, le chocolat blanc, c'est du chocolat. Donc c'est très rare les gens qui n'aiment pas le chocolat, mais c'est mal connu. Demander dans la rue à un kidam comment on fait le chocolat blanc, est-ce que le chocolat blanc, c'est du chocolat? C'est un produit qui est très très mal connu, donc mes parents décident de créer un musée du chocolat dans les années 90. Et puis arrive ensuite la génération suivante, c'est-à-dire mon frère et moi, qui mon frère lui va apporter toute la partie stage. Donc il va accueillir le grand public dans nos ateliers pour leur faire faire des macarons, du chocolat, de la pâtisserie. Et puis moi sur la partie musée communication. Donc c'est super parce que chacun a pu trouver sa place et amener des nouveautés, mais sur un socle existant. Qui est très intéressant. C'est un sacré défi, en fait, d'arriver dans une entreprise qui va bien.
Alors, donc, on l'a compris, c'est familial. Donc, vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a donné envie, tout naturellement, de continuer et ne pas aller faire autre chose?
Alors, c'est intéressant
parce
que...
Ne pas être dégoûté du chocolat.
Non, alors déjà, dégoûté, pas du tout, même quand je faisais pas ça. Non, alors moi, c'est intéressant parce que je suis une fille, donc on m'a jamais mis la pression. Mon frère, mes parents ont toujours été très classe avec lui. Ils lui ont dit tu feras ce que tu voudras. Mais par contre, le grand public, l'extérieur, lui disait tout le temps « Ah, t'es la quatrième génération !» Donc, il avait quand même ce truc de prédestination qui par chance il a pas subi parce que mes parents étaient vraiment corrects avec lui en lui ouvrant d'autres portes, mais il a quand même eu envie d'être pâtissier, donc ça c'est intéressant parce que c'est son envie à lui. Et moi j'ai fait complètement autre chose, j'ai monté mon entreprise de visite guidée, donc je suis partie vivre à Paris, je suis partie vivre ailleurs, à l'étranger aussi. Et quand j'ai voulu avoir des enfants, je voulais pas être dans une grande ville, je suis rentrée dans ma région et je me suis dit mais en fait mon savoir-faire de guide peut servir dans l'entreprise et du coup chez moi entre guillemets. Et c'est vrai que dans notre famille quand on dit chez moi, c'est à la chocolaterie. On a tous une maison, hein, on a tous un lieu de vie, mais quand on dit chez moi, c'est dans la chocolaterie. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de revenir et c'est ce qui donne du sens. Alors je fais partie des reconvertis du coup, c'est ce qui donne du sens à mon métier. Je fais le même métier de guide, mais au sein de ma maison, donc c'est magnifique.
Alors quelques mots pour nous parler de ce musée, comment il se présente exactement? C'est grand, c'est petit, qu'est-ce qu'on y voit? Alors c'est l'histoire du chocolat.
Alors petite question piège.
Vous ne faites pas goûter des chocolats d'il y a 100 ans quand même?
Non, on n'en conserve pas aussi longtemps, c'est pas comme le vin. Non, petite question piège parce que notre musée est fermé temporairement pour travaux. Donc je peux vous dire à quoi il ressemblera, je peux vous dire à quoi il ressemblait, mais pour l'instant...
À quoi il va ressembler voilà. Alors, quand
alors,
il rouvrira
cette porte ? Il va être vraiment super. On est en train de bosser sur le projet là avec l'architecte. C'est un musée qui se veut vraiment ouvert au public famille, parce que quand on dit chocolat, on parle autant d'adultes que d'enfants. Donc notre idée, c'est d'avoir une muséographie vraiment axée sur les enfants et sur la manipulation. On n'a pas envie d'être sur des écrans partout, on a envie que les enfants puissent jouer, s'amuser, dessiner, toucher des choses, jouer sur les cinq sens, parce que le chocolat, on est évidemment sur la gourmandise et sur les sens. Accueillir aussi des familles pour faire des ateliers. Donc là, pour l'instant, c'est tout du projet, mais c'est du projet qui nous enthousiasme et qui nous passionne au quotidien, parce que c'est génial de lancer ce nouveau bébé, quoi.
Alors, il y a beaucoup de chocolatiers sur tout le territoire national, mais il n'y en a pas tant que ça qui ont une réputation qui dépasse leur commune, leur département. Donc qu'est-ce qui fait qu'on est un bon chocolatier, maître artisan, et puis que d'autres qui s'improvisent un peu peut-être, chocolatiers, ne font pas quelque chose, des produits bien extraordinaires?
Alors je pense qu'il y a deux choses dans votre question. Il y a déjà la qualité des produits. Ça, c'est une première chose très objective. Et puis, il y a quelque chose de subjectif qui est la communication. Moi, mes parents étaient tous les deux très ouverts, avaient très envie de parler de leur métier. Mon papa, vous le mettez à un micro, vous ne pouvez plus parler, monsieur. et ça, je pense que ça joue. Et c'est certainement, pour revenir à notre sujet, ce qui manque à l'artisanat parfois, pas toujours.
C'était la voix de l'emploi sur
nos FM. Savoir faire et savoir dire. Faire savoir. Et ça, c'est vraiment super important dans notre métier parce que si on va parler de son métier, on donne envie de le faire découvrir. Et donc, je pense qu'il y a des chocolatiers qui sont connus. Peut-être que leurs produits sont moyens, mais ils sont connus parce qu'ils ont su prendre la parole et se mettre en avant. Aujourd'hui, on s'est tous cité 5 ou 6 noms de grands pâtissiers français parce qu'on les a vus à la télé. On a goûté leur gâteau ? Jamais. Et pourtant, on dit « Ah là là, ce sont de grands pâtissiers !» Mais je sais pas, j'ai jamais goûté. Oui, mais ils ont une aura. Mmh. Donc ça, ça joue aussi. Et malheureusement, on l'apprend pas quand on devient pâtissier chocolatier. On n'a pas de cours d'élocution, d'éloquence. Et c'est dommage. Ça devrait faire partie du jeu.
Oui, Thierry, vous vouliez
dire quelque chose. Tout à l'heure, quand vous parliez d'exemples d'entreprises modernes, la pâtisserie... D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais peut-être commencé, moi... Introduction de ma synthèse quand on a fait le diagnostic en ressources humaines. La pâtisserie Juvenal, c'est vraiment une entreprise qui allie la tradition et la modernité. C'est-à-dire, ça vous fait rire, Anne-Laure, parce que je reviens sur ce que je vous avais dit il y a 2 ans, mais c'est vrai que c'est une entreprise très moderne, vraiment une entreprise du 21e siècle, mais tout en ayant gardé des valeurs de 1912 et du 20e siècle. Et le bon produit, et là où Franck et Anne-Laure vont encore un peu plus loin que leurs parents, si au niveau, elle le dit très justement, alors au niveau de la communication, ils ont un savoir-faire, très bien, maintenant c'est le faire savoir. Et là, ils ont vraiment franchi un cap. Et puis sur le champ des ressources humaines, puisque c'est ça qui nous lie aujourd'hui, leurs salariés sont à 35 heures, ils font des entretiens annuels, enfin, ils ont les mêmes outils en matière de gestion des ressources humaines qu'on pourrait voir dans une grande entreprise.
Et c'est combien de salariés dans votre maison ?
Alors, notre effectif total, c'est 18 personnes. Sur ces 18, il y a 5 apprentis, 4 co-gérants. Enfin, il faut que je m'habitue à dire 3 co-gérants, mon papa est à la retraite depuis le 1er octobre. Donc, 3 co-gérants, du coup, ça nous fait 9 salariés et 5 apprentis.
Voilà, donc c'est pour ça que vous ne dépassez pas les 10 salariés. C'est pour ça que c'est
oui, parce que critères, parce les que apprentis si... ne comptent pas, effectivement.
Voilà. Parce que si vous aviez 18 alors, salariés...
La création.
Tant que l'entreprise, elle grandit, mais qu'elle reste... Il y a une histoire de droit de suite, je ne vous dirai pas exactement les critères, mais tant que l'entreprise reste entre les mêmes mains, même si elle grossit, elle passe à 50, 60, 70 salariés, elle peut rester artisanale.
D'accord.
Oui, donc, c'est complexe. D'accord.
Une dernière question, et puis ensuite, on va revenir sur le monde des agriculteurs, puisque mine de rien, on s'achemine vers la fin de l'émission. J'aurais pu vous inviter juste vous, hein, ou votre papa, encore pire. C'est, je lui aurais dit la Maison Journal, et boum, il aurait tenu 60 minutes d'antenne. Les inconvénients, être une entreprise artisanale. Qu'est-ce que ça a comme inconvénient ?
Moi, je vois un énorme inconvénient de mon point de vue. Hein, je ne sais pas du tout ce qu'en pensent les autres artisans. Je ne veux pas parler pour tout le monde. Je parle pour nous. L'image de notre métier. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit, pour moi, l'image d'Épinal, c'est l'artisan dans son atelier. Je trouve ça génial que vous ayez cette image, monsieur. Parce que nous, on voit l'image qu'on donne à Pôle emploi. Là, en ce moment, on cherchait une personne en boutique. Les CV que nous envoie Pôle emploi, j'aurais dit, est-ce que vous avez d'autres CV ? Non, mais on fait par rapport à ce que vous cherchez. D'accord ? Donc c'est une vision, une première vision. Par les parents, quand des jeunes disent « je veux être pâtissier » ou « je veux être vendeur en pâtisserie », les parents disent « ah mais non, on voudrait que tu fasses des études ». Par le grand public, il y a l'image de l'artisan un peu gripsou, un peu qui va exploiter son personnel, qui va faire des heures de folie, etc. Par les artisans eux-mêmes, moi combien j'entends d'artisans, alors qu'on devrait être heureux d'être là où on est, sinon il faut faire autre chose, quoi. Qui disent les heures qu'on fait, les charges qu'on paye, blabla. C'est trop dommage. On a un problème d'image alors qu'on a un métier qui est super intéressant, qui est épanouissant et qui, s'il ne convient pas, ce que je peux tout à fait comprendre, bah, quelque part, j'imagine qu'il faut tourner la page, quoi.
On revient donc sur le domaine de l'agriculture. Alors, on en parlait juste avant de commencer l'émission. Notre émission rejoint l'actualité puisque aujourd'hui, c'est une nouvelle journée de mobilisation pour beaucoup d'agriculteurs. C'est la deuxième journée de mobilisation, rien que pour ce mois d'octobre 2019. Beaucoup d'entre eux sont devant les préfectures, ils envoient des messages au président Macron et à l'État. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de leurs revendications, puisque voilà. Mais ça signifie que, et on le sait parce que très régulièrement, il y a des manifestations, le monde agricole, en tout cas tout ce qui est agriculteurs, éleveurs, cultivateurs, alerte souvent sur leurs conditions de travail qui sont compliquées, pas assez de soutien, pas assez de beaucoup de choses. Mmh. Alors, Daniel, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Est-ce que, effectivement, quelles sont les filières qui bloquent aujourd'hui ? Parce qu'on l'a compris tout à l'heure, vous nous avez bien brosser tout cet éventail de métiers qui relèvent de l'agriculture.
Alors, je ne vais pas vous parler des filières qui bloquent, parce qu'il y a, dans chaque filière, il peut y avoir des difficultés, comme de partout. Hein. Je crois qu'on a aussi, enfin, il y a aussi la même problématique, je vais juste rebondir sur ce que disait Mme Jouvenal, c'est que dans le monde agricole, on a la même problématique d'image sur les métiers, sur le monde agricole en général. Il y a aussi ce climat compliqué, effectivement, actuellement, où il y a vraiment besoin de redonner confiance dans l'agriculture, dans les métiers de l'agriculture et dans les produits de qualité qui sont faits actuellement. Donc après, il y a des problématiques beaucoup plus compliquées sur lesquelles on va pas, je veux pas aller là vraiment. Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a vraiment un véritable enjeu aujourd'hui pour le monde agricole de communiquer, de présenter, parce qu'en fait l'agriculture, c'est au départ, c'est vraiment des métiers de passion. Il faut vraiment être passionné pour être chef d'exploitation, pour être agriculteur, hein. Et que le monde agricole, c'est pas seulement des agriculteurs en tant que chef d'entreprise, mais ce sont aussi des salariés. Il y a un grand nombre de salariés en agriculture, et on voit bien quand on rencontre que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, il y a vraiment quelque chose d'un peu suranné, quoi. Il y a une image qui ne colle plus à la profession, aux réalités de la profession, finalement. Donc il y a un besoin aussi de communiquer. Alors, moi, j'irais plutôt sur ce champ-là. Un besoin de dire qu'aujourd'hui, le rôle n'est plus seulement pour l'agriculteur de produire et de nourrir les populations, mais il a une mission sociétale, d'ailleurs de faire des produits de qualité en respectant l'environnement. Donc ça fait aussi des charges supplémentaires qui sont à prendre en compte. Voilà, il y a beaucoup de travail auprès du grand public, là, actuellement, aujourd'hui, ce que je pourrais en dire, c'est qu'il y a beaucoup de travail auprès du grand public, faire connaître, ouvrir son métier, communiquer. Donc il y a très souvent la volonté de la part d'agriculteurs d'ouvrir leurs exploitations. Hein, vous avez certainement entendu parler des fermes portes ouvertes qui arrivent chaque année. Mais en dehors de ça, il y a aussi d'autres portes ouvertes qui se font un petit peu ça et là sur les territoires pour donner envie, parce que les agriculteurs ont besoin de montrer ce qu'ils font, comment ils le font, d'en parler, de parler de leur passion et de leurs difficultés aussi, parce qu'il y en a hein, forcément, il y a des difficultés comme dans tous les métiers, mais il y a ce besoin de montrer et de faire goûter les produits, de mettre en confiance et de créer une relation de proximité aussi avec le grand public.
Alors je précise qu'on aurait un témoin aussi hein, du milieu agricole aurait été bienvenu. Malheureusement, le temps était un petit peu
passé.
Vous
n'aviez
pas assez de temps pour trouver un témoin au même titre qu'Anne-Laure Jouvenal, mais ça aurait été intéressant puisque cette personne aurait pu peut-être nous expliquer très concrètement. Alors comme je le disais tout à l'heure, pourquoi pas, ça fera l'objet d'une prochaine émission avec des agriculteurs qui viendront nous expliquer exactement quelles sont leurs conditions de travail, les conditions de vie de manière générale. On sait aussi que dans le domaine de l'agriculture, il y a tout ce qui relève de l'Europe. Les normes européennes, les réglementations qui ont l'air de poser aussi beaucoup de soucis. On y reviendra peut-être à une autre occasion. Ma question, peut-être une des dernières questions, va peut-être vous paraître un peu vaste, mais qu'est-ce qui est le plus difficile finalement quand on est un artisan, quand on est un travailleur du monde agricole hein, quelle est la principale difficulté qu'on peut rencontrer? Vous avez parlé d'image. Tous les deux, Daniel, Anne-Laure, en termes économiques, il n'y a pas de choses qu'il faut faire attention. Et là, peut-être que ça peut aussi servir un peu d'alerte pour ceux qui ont des projets, de dire que ce soit des gens qui veulent se reconvertir, aller dans le milieu agricole, aller dans le milieu de l'artisanat. Est-ce qu'il y a quelque chose dont il faut avoir conscience dès le début?
Si je peux prendre la parole en premier, moi, quand vous avez posé la question à l'instant, les difficultés actuellement pour nous, c'est de trouver des candidats à nos offres d'emploi. Actuellement, on a peut-être 35-40 offres qui sont en ligne sur notre site internet, auprès de Pôle emploi, auprès d'Indeed, etc. Et on a du mal à avoir des candidats, parce que les candidats actuellement sont en emploi. Donc c'est pour ça qu'on travaille très en amont pour faire la promotion des métiers, pour que les problèmes que nous avons aujourd'hui pour trouver des salariés, on espère ne plus les avoir d'ici 5 à 10 ans, parce que les jeunes ou moins jeunes, viendront facilement vers les métiers de l'artisanat. C'est un petit peu paradoxal, parce qu'on disait qu'il y a de plus en plus de gens qui se reconvertissent vers l'artisanat ou vers l'agriculture, mais certains métiers il faudrait peut-être qu'on crée, je ne sais pas, le meilleur couvreur ou le meilleur chaudronnier, en référence au meilleur pâtissier, parce qu'on a des pans entiers de métiers pour lesquels qui sont désertés et les artisans ou entreprises plus conséquentes s'arrachent les CV parce qu'on on manque de candidats. Je pense à la coiffure, je pense aux mécaniciens, je pense à la carrosserie.
Et là, c'est pour les mêmes raisons que Daniel évoquait tout à l'heure, c'est que ça n'est pas suffisamment su, c'est pas assez...
Il y a de la méconnaissance. Pour les mécaniciens agricoles, je vous rejoins complètement, Daniel. Il y a de la méconnaissance sur les métiers, c'est pour ça qu'on informe aussi assez largement sur nos métiers de l'artisanat, y compris ceux pour lesquels on pense à la pâtisserie, on pense à la chocolaterie, mais c'est aujourd'hui le métier le plus choisi par les jeunes, c'est pâtissier. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on crée des émissions comme le meilleur couvreur ou le meilleur chaudronnier.
Parce que ça a l'air de jouer beaucoup. Hein. Les jeunes sont très, très, très influencés par, par la télé ou par les réseaux sociaux aussi.
En tout cas,
aussi l'utilisation des réseaux sociaux qui est
sous-estimée. Nos difficultés, nous, en matière de service emploi, c'est de trouver de répondre à nos artisans qui nous sollicitent et qui souhaiteraient recruter.
Et à titre d'exemple, nous, ça fait presque un an qu'on cherche une personne pour la boutique. On a des CV magnifiques en pâtisserie, en chocolaterie, du fait du meilleur pâtissier. Et en vente, on a du mal à trouver parce que, déjà, pour moi, on a un problème de terme. On dit vendeuse. Je ne sais pas s'il faut changer l'image ou le terme. Moi, je changerais carrément le terme. Les gens n'imaginent pas tout ce que fait la personne qui est en boutique. Elle n'est pas là que pour vendre, elle est là pour expliquer, pour informer.
Ouais, ce sont des conseillers.
Elle fait le relais aussi avec les personnes de l'atelier. Elle fait le relais avec les responsables de l'entreprise. Elle donne des idées. Elle met en boîte. Elle range les chocolats. Enfin, elles ont une responsabilité les personnes qui sont en boutique qui est aussi importante et aussi belle que ceux qui sont en pâtisserie ou en chocolaterie. Et malheureusement, elles sont moins estimées. Alors chez nous, on a fait un boulot là-dessus, mais on se rend compte qu'en général, en France, elles sont moins payées que les pâtissiers et que les chocolatiers, alors qu'elles ont le même degré de responsabilité. Et nous, si on ne trouve pas, c'est aussi parce qu'il faut changer un peu son mode de vie, c'est-à-dire qu'on travaille quand les autres ne travaillent pas. Vous allez chez votre chocolatier, chez votre pâtissier le dimanche, vous y allez un jour férié. Alors, on a la chance d'être une équipe et de faire vraiment chacun son tour, mais en général, travailler le week-end, ça devient quelque chose d'impossible. Alors que quand on s'y est mis, on peut en parler avec notre équipe, on est bien contente d'avoir notre lundi, on est bien contente d'avoir notre mercredi avec les enfants. Et par contre, on n'a pas son samedi dimanche de temps en temps, mais c'est pas tous les week-ends.
Eh bien, c'est la première fois qu'on finira la voie de l'emploi avec une offre d'emploi.
Alors, donc, on peut
avoir les détails. Elle est presque pourvue.
Non, mais dommage. Peut-être. Bah, je sais pas, on verra.
Bah, en tout cas, l'annonce est toujours.
Sur Pôle emploi,
voilà,
oui.
Toujours publique. On la trouve aussi sur votre site. On va finir avec les endroits pour se renseigner. Donc, la maison Jouvenal, le musée qui ouvrira quand ? C'est prévu pour quand ?
L'architecte nous dit 2022. Je relaie juste son info.
2022 ? Ouh là là !
On repart vraiment de zéro.
C'est loin. Ah oui.
En attendant, on accueille quand même les groupes, on a trouvé des solutions.
D'accord. Donc tout ça, de toute façon, c'est sur la côte Saint-André.
Oui.
Vous avez un site web ?
Oui.
Voilà, donc on tape. Hein,
Paradis-Trédunion-Chocolat.fr.
Jouvenal. Et on vous trouve sans problème les sites des chambres, hein, chambre des métiers de l'artisanat et chambre d'agriculture, hein, qui se trouvent très facilement. Il y a toutes les infos. Alors parfois, il faut fouiller un petit peu, c'est pas toujours très clair, mais on arrive à avoir des infos. Sinon, les contacts téléphoniques, qu'est-ce que vous conseillez pour les personnes qui veulent avoir des infos, des renseignements ? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un contact de vive voix ou est-ce que c'est par mail ?
Nous, on a une plateforme d'accueil téléphonique et physique d'ailleurs à la chambre de métier ou à notre ligne 04 76 70 82 09. Des gens qui connaissent sur le bout des doigts toute l'offre de service de la chambre de métier, que ce soit en lien avec l'emploi ou la création ou la reprise d'entreprise ou que sais-je encore. Directement ou par mail à contact@cma-isere.fr. Et puis aller se promener sur notre site internet, c'est vrai qu'il y a une mine d'informations. Nos offres d'emploi sont en ligne, les offres d'emploi, pas de la chambre de métier, les offres d'emploi de nos artisans, à la rubrique offres d'emploi qu'on trouve très facilement sur notre site internet.
Parfait.
Voilà, donc nous, on a effectivement aussi une plateforme d'accueil pour les porteurs de projets. Donc le point accueil installation, là vous me prenez un peu de cours parce que je n'ai pas le numéro de téléphone en tête, mais vous le trouvez facilement sur le site de la Chambre d'agriculture. Chambre d'agriculture avec le département, hein, on retrouve directement notre site. Pour l'apprentissage et pour tous les renseignements sur les formations, c'est directement le service apprentissage 04 76 20 67 57.
Merci à tous les trois d'être venus jusqu'à nous, d'avoir répondu à cette invitation. Donc, je le rappelle, nous étions en compagnie de Daniel Cuchet, de la Chambre d'agriculture de l'Isère, Anne-Laure Jouvenal, chocolaterie, pâtisserie. Donc, hein, c'est pas que chocolaterie, j'étais parti que sur le chocolat, moi. Donc, chocolaterie, pâtisserie, artisanale à la Côte-Saint-André et Thierry Chaudagne de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère. Merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt, le mois prochain, pour une nouvelle émission de La Voix de l'Emploi. Très bonne journée à tous. Ciao. C'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble Alpes Métropole.
News FM. News FM, à Grenoble, numéro 1 sur le hip-hop, groove, funk.